franceinter.fr.
Marcel !
En fermant un beau roman, même triste, nous nous sentons heureux.
Ma petite Albertine, en ce moment je suis encore trop triste.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
En fermant un beau roman, même triste, nous nous sentons heureux. Les plus belles choses dites sur les livres, on les doit non seulement à de bons écrivains, mais surtout à de bons lecteurs. Il faut bien garder à l'esprit que Marcel Proust, avant de devenir un auteur de génie, fut ce lecteur insatiable, lisant et pastichant ses auteurs favoris. Il écrit cette phrase dans un texte intitulé « Le pouvoir du romancier », que l'on trouve aujourd'hui dans le recueil des Nouveaux Mélanges. Le romancier qui, selon lui, peut nous affranchir de nous-mêmes et nous permettre de vivre différentes vies le temps d'un beau roman. Il s'en est fallu d'un seul, la recherche justement, pour que le professeur émérite Jean-Yves Tadier se consacre passionnément à la lecture et à l'étude des œuvres de Marcel Proust. On lui doit l'une des meilleures biographies à son sujet, mais aussi des livres aussi importants que Proust et le roman, ou plus récemment Le lac inconnu entre Proust et Freud, tous deux parus chez Gallimard. Il a également établi l'édition dans la recherche du temps perdu dans la collection de la Pléiade, et il est à mes côtés jusqu'à vendredi pour nous parler d'un sujet qui lui est cher, les personnages. Il y en a beaucoup dans ce roman. Quatre d'entre eux nous intéresseront cette semaine, la figure maternelle, Swann, Charlus et Albertine. Mais tout de suite, Jean-Yves Tadier nous parle de sa rencontre avec Proust.
Le lecteur qui découvrit, en 1913, le côté de chez Swann, ne pouvait pas en comprendre le plan d'ensemble, non plus que le visiteur qui aborderait la cathédrale de Rouen par le portail des libraires. Cela n'empêche pas que l'œuvre a la simplicité et la majesté d'une cathédrale. Les ornements des chapiteaux, les figures des vitraux, les saints des portails, la lumière diffuse, le murmure des orgues en font un monde, mais les grandes lignes de la nef n'en demeurent pas moins claires et simples. Le lecteur, qui l'œuvre finit, y trouve tant de symétries cachées, tant de détails qui d'une aile à l'autre se répondent, tant de pierres d'attente posées dès le début des travaux pour porter de futures ogives, admire que l'esprit de Proust est conçu comme d'un bloc cet édifice géant.
Bonsoir Jean-Yves Tadier.
Bonsoir Lina.
André Mauroy parlait dans cette archive de la simplicité de cathédrale de la recherche. Il file la métaphore jusqu'au bout. Hein. Ce monument, il est d'ailleurs utilisé à la fin du Temps retrouvé. Hein. Il compare son roman à une cathédrale. Et le choix de ce mot est assez intéressant parce qu'on sent bien cette idée que Proust voulait construire quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'avec ce roman, Marcel Proust avait conscience d'écrire un grand livre et de révolutionner quelque chose de la littérature ?
Construire un grand livre, sans aucun doute, et d'être totalement différent également. Il a d'ailleurs employé lui-même cette image de la cathédrale, et il a même écrit à une de ses amies qu'à un moment, il avait presque envisagé d'intituler ses parties « Porche, vitraux de l'abside », etc. Donc, ce n'est pas du tout un grand monologue improvisé, ce n'est pas une confession, c'est d'abord et avant tout, comme toutes les grandes œuvres d'art, une construction.
Oui, donc, par exemple, on parle souvent d'histoire ou d'intrigue pour un roman. Là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête quand on lit la recherche, c'est l'idée d'une construction d'une cathédrale.
Oui, parce que il y a à la fois une intrigue, on peut en reparler. Il y a une intrigue qui est un sujet qui va du début à la fin et de l'enfance au bord de la mort. Mais la construction, c'est autre chose. C'est à apprécier comme un ensemble. Et presque d'un seul coup d'œil, si on pouvait le faire.
Jean-Yves Tadier, on vous doit aujourd'hui certains des ouvrages les plus importants sur Marcel Proust. Vous avez beaucoup œuvré pour lui. Comment en êtes-vous venu à travailler sur son œuvre ?
Bien, assez naturellement, comme j'aimais la littérature et que je ne voyais d'autres moyens de me livrer à ce goût que de faire des études de lettres. lorsqu'il a fallu choisir les sujets personnels de mémoire de recherche, c'est vers Proust que je me suis tourné, Proust que j'adorais depuis l'âge de 16 ans. Et ça a d'abord été un mémoire de maîtrise, et ensuite ça a été mon sujet de thèse.
Alors, je crois savoir qu'André Mauroy, qu'on a entendu tout à l'heure dans l'archive, vous a encouragé à vous lancer dans l'aventure de cette étude.
C'est ceci que, lorsque je suis allé trouver un professeur à la Sorbonne, Octave Nadal, que j'avais trouvé parce que c'était le seul d'esprit un peu moderne dans la Sorbonne de ce temps-là, il m'a dit, mais sur Proust, il y a beaucoup de choses déjà, allez voir André Mauroy pour qu'il vous dise s'il y a encore de la place pour ce que vous voulez faire. Je suis donc allé tout tremblant, parce que pour moi, André Mauroy était à l'époque, c'était un grand académicien, c'était un écrivain ultra célèbre, c'était le biographe de Proust. Et j'ai donc pénétré dans un immeuble très imposant du boulevard Maurice Barrès. Et puis, un charmant vieux monsieur qui avait l'air soit d'un président de société, soit d'un ambassadeur, derrière son bureau, m'a accueilli avec cette voix très douce qui lui donnait l'air d'avoir 50 ans de moins que l'âge qu'il avait réellement. Et qui m'a dit, mais oui, vous pouvez tout à fait continuer. Et il m'a recommandé un ou deux livres, d'ailleurs, qu'il avait lui-même préfacés. J'avais aussi interrogé Jean Paulhan, qui m'impressionnait aussi beaucoup et qui dirigeait à l'époque la Nouvelle Revue Française. Et je lui avais dit, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de choses sur Proust? Et Paulhan m'avait répondu, il le mérite, non. Donc j'avais continué.
Alors je vous ai demandé de choisir votre page préférée de la recherche et vous avez finalement assez peu hésité. Vous m'avez dit tout de suite, ce sera les deux derniers paragraphes du temps retrouvé.
Naturellement, j'aurais pu vous en proposer 40 ou 200, mais il fallait bien choisir. C'est donc la dernière page, les deux derniers paragraphes de l'œuvre que je vous ai proposé.
On vous écoute, allez-y.
J'éprouvais un sentiment de fatigue et d'effroi à sentir que tout ce temps si long, non seulement avait sans une interruption été vécu, pensé, sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu'il me supportait moi, juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne me savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré, en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes, comme celles de ces vieux archevêques, sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique, et vers lesquels s'empressent des jeunes séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où, tout d'un coup, ils tombaient. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Du moins, si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes? Cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux? comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.
Jean-Yves Tadié, cette très belle page, en fait, elle semble contenir non seulement le livre entier, mais surtout la première page. On est vraiment là ramené au début du livre.
Absolument. Longtemps est le premier mot du livre qui n'a pas été trouvé tout de suite. D'ailleurs, Barbeau, au contraire, en dernier, juste avant la publication de l'ouvrage, le cercle est bouclé, ce qu'on disait tout à l'heure de l'architecture. C'est une architecture circulaire. Le leitmotiv du temps est dans le titre, d'ailleurs. À la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, où nous sommes, longtemps, le temps, dernier mot. Proust est évidemment le grand romancier du temps. Tout roman est un roman du temps, ne serait-ce que parce qu'il est obligé de durer pour être roman, sinon ce serait un poème. Mais là, c'est non seulement un roman qui dure, mais un roman qui nous renvoie le sens du temps.
Alors, le sens du temps, un roman sur le temps, on parlera des personnages cette semaine, mais peut-être que le temps, en fait, est le personnage du livre, le vrai personnage du livre.
Oui, c'est le vrai personnage du livre qui s'incarne, c'est une sorte de divinité qui s'incarne dans les êtres humains. Alors, il y a deux temps chez Proust, bien sûr, il y a un temps destructeur, vieillissant, celui qui transforme le duc de Guermantes en vieillard flageolant, et puis il y a un temps constructeur, qui est le temps retrouvé, celui dont on voit ici une trace à propos de la présence de la sonnette de Combray qui vient depuis l'enfance.
Si l'on remonte quelques pages en arrière et on reparcourt tout le livre, la recherche finalement est inséparable de la vie de son auteur. Il y a cette résonance assez évidente entre le narrateur et Marcel Proust, qui est aussi dangereuse. Il ne faut pas se laisser prendre par cette résonance. Proust s'en est toujours défendu. Il refusait l'idée que son roman puisse être un roman à clé. Mais malgré tout, on est tenté de faire cette assimilation. Alors comment faire pour lire ce livre sans penser à Marcel Proust ?
Il faut penser qu'il y a un immense système de personnages, ce dont nous aurons l'occasion de reparler, à peu près 500. Donc ça suffit pour dire qu'il n'y a pas 500 Marcel Proust dans ce roman. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des domestiques, il y a des grands seigneurs, il y a des hommes politiques, il y a des guerriers, toute la société, les sociétés y sont représentées, il y a des étrangers, il y a des Français. Donc tout ça fait un monde foisonnant qu'il ne faut pas oublier. Penser à Proust en croyant qu'il écrit une sorte de confession, c'est se tromper complètement. Il a d'abord voulu être romancier pour ses romans et de construire donc un système qui doit d'abord être coupé de la réalité. C'est pas une littérature réaliste, ni un reflet, ni de lui-même, ni des autres. C'est un approfondissement de soi et des autres, et c'est une œuvre imaginaire. Il s'est réinventé lui-même sous les traits du narrateur, de même qu'il invente ses personnages.
Alors, on réduit souvent ce livre donc à l'histoire du narrateur, mais ce narrateur gravite autour de tout un monde. Et le terme de comédie humaine revient souvent. Donc, on l'emprunte à Balzac. Il revient souvent pour définir tout ce panorama de caractères, de figures, de personnages. Alors, quelle est exactement l'influence de Balzac sur Proust ? Parce qu'il vient, il vient après lui.
Proust pensait, et c'est aussi une chose que d'autres ont dit, dont Malraux, qu'on ne peut se former qu'en imitant d'abord. Des maîtres. Seuls de mauvais écrivains ou de médiocres artistes peuvent penser qu'ils ont tout infu et inné. Au contraire, c'est par un travail acharné sur ce qu'ont fait les plus grands, dans une école qui est une école intime, que l'on peut apprendre son métier. Et on peut dire que Proust a appris son métier d'abord chez Balzac. Un petit peu aussi chez Flaubert pour la phrase et le style, un tout petit peu chez Stendhal pour certains moments d'extase devant un paysage, un petit peu chez les Anglais aussi pour d'autres raisons, notamment chez George Eliot et Thomas Hardy, mais son remède, c'est incontestablement Balzac. Il connaît tout de Balzac, et ses pastiches, qui sont d'ailleurs très drôles, de Balzac, le montrent bien.
Balzac qui apparaît à plusieurs reprises dans la recherche, c'est Charlus qui le lit beaucoup,
voilà.
Qui en parle.
Il est mis en abîme dans le roman, il est cité, et en même temps, pour Proust, Balzac n'est pas sans reproche.
Alors comment veut-il s'en démarquer ? Est-ce qu'il veut le dépasser ou pas ?
La question ne se pose même pas. Il veut absolument faire autre chose. Il le dit à propos des rapports entre le peintre qu'il imagine, qui s'appelle Elstir, et Chardin, grand maître d'Elstir. Il écrit qu'on ne peut, comme Elstir Chardin, refaire ce qu'on aime qu'en le renonçant. Donc, il y a une sorte de dialectique. On est d'abord balzacien, puis on est anti-balzacien pour pouvoir être soi-même.
Et nous aurons l'occasion de découvrir toute cette semaine comment Proust, justement, à travers la construction de ses personnages, devient véritablement lui-même en se détachant du modèle balzacien. Merci beaucoup Jean-Yves Tadier. Et à demain soir donc, nous parlerons de notre premier personnage. Ce sera la figure maternelle incarnée dans le roman par la mère, évidemment, mais aussi par la grand-mère du narrateur. It's right about time. Better pick your boys and try. Take a little walk with me. Take a little break from thinking all the time. Cause I need a fever, darling. On time to break a little smile, to give me back a shine. Sometimes we all need to need a as a disco dancing out of time.